Cette
La teneur.
conférence va maintenant être enregistrée.
Merci. Et donc, en cas de dépressurisation, vous aurez un masque qui va tomber automatiquement, etc. Je pourrais presque le faire, là, le speech. Donc, la teneur, la dynamique, l'esprit de ce lieu, c'est de favoriser l'expérience intime et personnelle plutôt que de, comment dire, délibérer à l'infini des possibles, la rhétorique, les questions, etc. Donc, pas une approche trop scolastique, scriptuaire, textuelle, mais beaucoup plus directement connectée à l'expérience intime. Parce que, en fin de compte, c'est dans cette phase de méditation que la véritable transformation radicale de l'ignorance des habitudes se fait. Mais ceci étant dit, le développement de la sagesse, le principe de sagesse, va se faire au travers de trois étapes. La première, c'est l'étude. La deuxième, c'est la contemplation, c'est-à-dire réfléchir profondément sur les sujets qui nous sont proposés. Et lorsque ces sujets sont vraiment limpides à notre sens, à notre compréhension, on va pouvoir mettre en place une méditation qui va s'appuyer sur une vue juste. Si on n'a pas une vue juste de la réalité, du chemin, de la pratique, de ce que l'on a à faire, la méditation va être un peu boueuse. On n'a pas trop de direction, c'est pas trop où on va. Donc, il est vraiment important d'avoir une vue juste. Sur la vue juste, on peut appuyer donc une méditation qui va être correcte et on aura un fruit qui sera le plein éveil, bien sûr, pas tout de suite après la première session de méditation, hein, on s'entend. Et donc, mon propos au travers de ces quelques journées qu'on va passer ensemble, c'est d'amener quelques éléments structurants pour bien comprendre ce que l'on fait dans la méditation et pourquoi on fait ce que l'on fait dans la méditation. Hein? De façon à ce qu'il n'y ait pas d'incertitude et qu'il y ait vraiment une grande clarté, une grande limpidité. Mais je ne vais pas avoir une approche trop académique. C'est pas le but du jeu. Mais voilà, présenter un petit peu comment l'esprit fonctionne finalement. La méditation est indéniablement l'étape libérante, mais l'étude et la réflexion sont les phases préparatoires indispensables. Maintenant, étude et réflexion, ça ne veut pas dire qu'on va passer 40 ans de sa vie à lire tous les textes et tous les commentaires. Voilà, vous avez des bibliothèques ici chargées de livres, etc. C'est pas ça. Ce que par exemple Shama Rinpoche a tenté de faire, c'est de faire, comment dire, un Reader's Digest, un condensé de tous les enseignements et de définir une ligne claire des quelques éléments qu'il est vraiment indispensable de savoir et de bien maîtriser, parce qu'ils vont soutenir et éclairer notre méditation. Et donc, il est évident que nous ne sommes pas dans une situation comme par exemple certains peuvent choisir de faire, passer 25 ans de leur vie à étudier tous les textes, à devenir des docteurs en philosophie bouddhiste ou je ne sais pas comment on va les appeler, mais ce n'est pas notre propos. Mais quand même, il y a quelques points essentiels qu'il faut quand même bien comprendre. Et donc, ça, c'est l'idée générale de mon exposé au cours de ces quelques jours. Alors, puisque je dis que la pratique in fine est vraiment l'espace libérant, le matin, on va méditer ensemble de 7 h à 8 h. On aura un moment de méditation. Et puis, on aura une première classe 9 h 30 à 11 h, quelque chose comme ça. Puis l'après-midi, ben, vous aurez du temps et de l'espace pour digérer ce qu'on a vu. Alors que vous désherbez ou que vous ramassez les produits du jardin, que vous allez arroser, etc. Puisque tout ça se fait dans le calme, la présence, le silence, ben, vous aurez le temps de mettre à plat tout ça, parce que ça peut être beaucoup d'informations qui arrivent, et puis bah, il faut laisser, c'est un peu comme l'eau, s'il y a trop d'eau, ça part en surface, et il faut laisser l'eau gentiment imbiber la terre. Et puis, bah, on se retrouve après le dîner pour continuer. Pendant la période qui est la période, on va dire, donc méditation en action, ce que je vous propose, c'est moi d'être à votre disposition si vous avez besoin, envie d'une rencontre personnelle. Hein, on a l'avantage d'être un petit nombre, donc je peux vraiment me proposer ça. Et donc, 15h, 18h, on peut. Alors, peut-être faudra mettre en place un petit tableau avec des horaires pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Voilà, on pourra faire ça. Donc, l'enseignement, l'exposition, mais après aussi la réflexion et aussi en parallèle, si vous voulez, un débat. J'ai pas compris ça ou ça, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Voilà. Et essayez de garder ce moment de questions-réponses pour des choses qui se passent en ce moment autour de ce que l'on expérimente, autour de la pratique, autour de l'étude. Je ne suis pas conseiller matrimonial, je ne suis pas coach professionnel. Ne me demandez pas comment vous devez vivre. Vivez votre vie. Hein? Et bon. Moi, mon job, c'est d'essayer de vous faciliter l'accès à la nature de votre esprit. Et j'essaye de faire ça, et c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc, voilà, en gros, le déroulement de ces quelques jours. Alors, ici, la Lama Tsutrim met vraiment en avant ce qui est la quintessence des instructions du Mahamudra dans la tradition Kagyupa. Et il fait vraiment un exposé très détaillé, clair, etc., en utilisant tous les textes de référence. Et c'est en fait l'héritage qu'on a reçu, aussi bien lui que moi-même, de Gendun Rinpoche. Donc c'est dans cette veine-là qu'on va aussi faire cette approche et cette étude ensemble, cette mise en pratique ensemble. Alors, le titre général, c'est un extrait que j'ai pris d'un texte de Shama Rinpoche qui s'appelle Au cœur de la sagesse et qui essaye de mettre en place une réflexion après avoir décrit dans ce texte, je vous invite d'ailleurs à le lire, hein, ce texte. Après avoir décrit toutes les qualités de l'esprit, lorsqu'il est dans sa splendeur, qui n'est plus obstruée par les voiles de l'ignorance, des émotions perturbatrices, etc., il y a un passage où il dit, voilà, maintenant, la question que peut-être vous vous posez, c'est comment se fait-il qu'il y ait ces qualités innées dans l'esprit et que l'on n'en soit pas conscient? Parce que tout au long de ce chapitre des qualités du Dharmakaya, du mode d'être ultime, Rinpoche explique qu'il n'y a rien là que l'on va construire, développer, acquérir au cours de notre chemin méditatif qui ne soit déjà en esprit. Donc s'il est déjà en esprit, on peut d'une façon essentielle dire que cet esprit est déjà Bouddha. Mais dans notre expérience, on se rend bien compte que cet esprit, il n'est pas encore Bouddha. Il en est même très loin. Et pour certains, ils sont même ignorants simplement du mot Bouddha, du mot éveil, où il n'y a aucun intérêt. Donc, Gampopa explique dans le texte qui s'appelle Le joyeux ornement de la libération, tout au début, dans le premier chapitre. Cette relation entre l'être que nous sommes maintenant et ce trésor non su, non reconnu, qui est au cœur de l'esprit, qui est parfait et complet, ici et maintenant, qui n'a pas besoin d'être développé, construit, ou Gendun nous disait, on n'achète pas l'esprit, on ne fabrique pas les qualités de l'esprit, elles sont innées. Donc, la relation entre cet état de fait, la nature profonde de notre esprit et la situation actuelle qui est la nôtre. Et donc, il définit cinq grandes famille, enfin groupe d'êtres. Il commence en disant, il y a ceux qui sont coupés du potentiel. Et coupés du potentiel, ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients de la présence de cette nature d'éveil au cœur de l'esprit comme qualité innée et intrinsèque. Ils ne sont pas conscients de ça, ils sont donc ignorants de cette réalité. 99,9% des êtres sensibles sont dans cette situation. Ensuite, il y a ceux qui vont avoir, par le mérite accumulé au cours d'existence antérieure, par les souhaits qui ont été faits de trouver une voie de libération, etc. Donc, il y a multiples facteurs, vont entrer en contact avec l'enseignement du Bouddha et recevoir l'information de cette présence de la nature d'éveil ou de la possibilité d'atteindre l'éveil. Et là, il y a plusieurs modes de relation ce potentiel d'éveil ou cette présence de l'éveil. On verra les différents termes qui s'appliquent à ça. Une qui va être l'approche des ce qu'on appelle les auditeurs, Shravaka en sanskrit. C'est ce que, d'une manière générale, la forme d'enseignement qui est pratiquée dans le sud-est asiatique, qui s'appuie soit directement sur les sutras, vraiment une lecture des sutras comme étant base d'information, auquel cas ces auditeurs sont appelés sotantrika, c'est-à-dire qui s'appuient sur les sutras. Ou bien ceux qui vont s'appuyer, comme on trouve par exemple à Sri Lanka ou ailleurs, qui vont s'appuyer sur des commentaires qui ont été faits ultérieurement, qui sont des sortes d'encyclopédies. Le Bouddha a enseigné pendant entre, disons, 39 ans, 40 ans, jusqu'à 84 ans. Donc il y a une longue carrière d'enseignement, il a voyagé, il a rencontré plein de gens, et il n'a pas enseigné avec en tête un catalogue. Petit a, premier jour, non. Il a enseigné, et après, longtemps après lui, certains ont pensé qu'il serait bien de, un peu comme Diderot et d'Alembert chez nous, d'organiser ce savoir quasiment alphabétiquement et de ranger en fait tous les sutras, les différents enseignements que le Bouddha a donnés par thème. Et donc, ils ont créé des grandes catégories, ce qu'on appelle les commentaires, hein, Vaibhasa, et donc en sanskrit. Et donc, ce groupe de gens qui s'appuient sur les commentaires sont appelés Vaibhasika. Donc, tout ça, cette approche-là, c'est l'approche, donc, ce que l'on peut appeler le véhicule des auditeurs. Alors, quelle est la caractéristique première de ce groupe? C'est l'idée que, effectivement, l'ignorance et le conditionnement qui vient de l'ignorance est source de souffrance et qu'il faut faire tout ce que l'on peut pour s'en affranchir. Et donc, il y a une démarche, on va dire, très pragmatique, très terre à terre, très personnelle, individuelle. Il n'y a pas un accent, comment dire, fort qui est mis sur le fait que on va essayer de libérer tout le monde. On travaille à sa propre libération, peut-être dans l'intention qu'une fois libéré, on pourra aider les autres. Ou en tout cas, on travaille à sa propre libération et dans la conscience que ce faisant, nous devenons un exemple pour autrui, qui peuvent dire, ah, c'est impressionnant, j'ai envie de faire ça, je vois cette liberté chez cet homme et cette femme, j'ai envie de suivre. Donc ça, c'est cette première approche, une approche de libération, comment dire, individuelle, totalement engagée et qui considère le samsara, l'existence conditionnée, comme étant la source du problème et qu'il faut s'en détacher, il faut prendre une distance par rapport à ça. Et donc, on va essentiellement travailler sur le désir et l'attachement. Et donc, on prend des vœux, on prend une ordination, etc. Et on vit avec cette base, ce code éthique. Donc, ça, c'est la première façon de se relier à cette nature d'éveil, celle des auditeurs. Ensuite, il y a une deuxième façon de se relier à la nature d'éveil, C'est celle de ce que l'on appelle les réalisés solitaires, ou pratyeka buddha en sanskrit. Alors, la caractéristique des réalisés solitaires sont des êtres qui, au cours d'existence antérieure, ont eu un contact avec le dharma, avec la sangha, avec le Bouddha, peut-être même ont reçu les enseignements du Bouddha, qui ont laissé une forte impression dans leur continuum d'esprit, dans ce que nous on pourrait peut-être appeler leur inconscient, et par les souhaits qu'ils ont faits, généralement ils se manifestent ou ils naissent à des périodes où il n'y a pas la présence du Bouddha, où il n'y a pas la présence des enseignements du Dharma, où la méthodologie que nous appelons le bouddhisme n'est pas présente. Mais ils ont une capacité à l'introspection, à l'observation, à l'analyse, etc. Et regardant l'impermanence de toute chose, ils peuvent remonter les 12 liens d'interdépendance qui conduisent de l'ignorance à la vieillesse, la maladie et la mort. Et donc faire une sorte de rétro-engineering, de faire marche arrière pour revenir jusqu'à l'ignorance et se libérer dans cette découverte de la cause première de la souffrance. Alors, ce sont des êtres qui n'ont pas besoin ou ne souhaitent pas s'appuyer sur une communauté, une sangha, alors que les auditeurs, la sangha est vitale, hein, le soutien de la sangha est vital. Ils ne souhaitent pas non plus, ils ne pensent même pas, je pense, avoir de disciples ou de transmettre. Pour la simple raison, c'est que l'expérience étant tellement intime qu'elle ne peut pas être transmise. C'est une découverte, on va dire, intime qui n'a pas suivi une méthodologie. C'est une découverte empirique. Et je pense qu'ils sont convaincus que à chacun de faire sa démarche et cette découverte empirique et que on ne peut pas transmettre. C'était un petit peu, par exemple, ce que Socrate demandait à ses disciples, est-ce que la vertu peut être enseignée? Vertu, ou dans le sens grec, la vertu, c'est la somme des qualités, l'éveil en quelque sorte. Est-ce que ça peut être transmis? Et les disciples étaient un petit peu perdus et il explique que non, c'est une découverte intime, empirique, qui ne peut pas être transmise par des mots, par des concepts. L'enseignant, le maître, l'accompagnant crée un environnement dans lequel la prise de conscience se fait. Donc, ça sont les réalisés solitaires. Et puis, il y a la cinquième catégorie qui est celle des bodhisattvas. C'est l'approche du grand véhicule, du Mahayana, où il y a un intérêt évident, un peu comme les auditeurs, à la libération personnelle, mais aussi une conscience que du fait de l'interdépendance, la libération individuelle s'inscrit dans une démarche collective de libération. Il y a comment dire, un accent très fort qui est mis sur la bienveillance, la compassion. Et la compassion, c'est quelque chose qui est actif. Le mot compassion en sanskrit, c'est karuna. Et karuna commence par les trois syllabes kar, qui sont les mêmes que l'on retrouve dans le mot karma, qui veut dire action. Donc, quand on parle de compassion en sanskrit, on veut dire que c'est un amour qui est actif. C'est un amour qui reçoit la souffrance, qui comprend, qui entend la souffrance et qui cherche à aider. Donc, l'idéal du Mahayana, l'idéal du Bodhisattva, c'est-à-dire l'homme, la femme qui aspire avec courage à l'éveil comme façon d'aider l'ensemble des êtres à atteindre cet éveil, cet idéal donc du Bodhisattva, c'est de chemin faisant, se libérant, on libère l'autre. Alors après, il y a plusieurs modalités. Il y a la modalité du roi, la modalité du capitaine de ferry, et il y a le berger, la qualité du l'aspiration du berger. Alors le premier qui est comme un roi, l'idée c'est je vais atteindre l'éveil très rapidement et je serai en mesure d'aider l'autre. Le deuxième, c'est alors que je traverse je prends tout le monde dans le bateau et nous avançons ensemble. Et la troisième approche, celle du berger, c'est je m'assure que le troupeau est en sécurité avant d'aller prendre ma soupe. Hein, que l'éveil personnel est, comment dire, soumis à l'éveil d'autrui d'abord. Hein? Et en termes d'aspiration, l'aspiration du berger est supérieure, celle du roi est oh, simple, basique, celle du capitaine est moyenne. Donc, différentes façons d'aborder l'approche du chemin. Donc, voilà, on a ces cinq façons de connecter avec le. Soit on est déconnecté de ce potentiel d'éveil, hein, et le mot qui est utilisé en tibétain, c'est rik. Rik, gotra en sanskrit. Rik, ça veut dire la famille, la tribu, le groupe. Hein. Mais c'est un mot un des plus vraiment très complexe et très difficile à traduire, parce qu'il y a beaucoup d'implications. Gotra veut dire aussi ce qui va être l'élément fondamental, l'ADN, quelque part, de l'éveil. Hein? Donc, il y a ceux qui sont coupés de cette réalité. Il y a ceux qui sont informés de cette réalité et qui veulent s'affranchir personnellement, intimement, le plus rapidement possible, s'appuyant sur la Sangha, s'appuyant sur les enseignements du Bouddha. Il y a ceux qui arrivent à cette même conclusion, mais qui s'affranchissent de façon empirique. Quelque part, on les appelle Pratyeka Bouddha, mais c'est même pas des bouddhistes, puisqu'il n'y a pas de Bouddha à cette époque. Hein? C'est vraiment quelqu'un qui arrive une réalisation par l'introspection et le travail personnel. Donc, ils sont dans cette catégorie-là. Et puis ensuite, il y a Tepachemperik, la tribu, la famille, l'ADN, la motivation essentielle du grand véhicule. Donc, voilà, Gampopa nous présente ces cinq façons d'approcher. Et puis, si vous avez bien fait le compte, il en manque une. Merci, il y en a qui suivent, c'est un petit test. Hein. Alors, ce qui manque, ce sont les incertains. Ils sont incertains, c'est-à-dire que leur chemin va dépendre d'une rencontre. S'ils rencontrent un Pratyeka Bouddha, eh ben, ils vont être inspirés et ils vont essayer de faire leur propre démarche, non pas en recevant des enseignements, puisque les Pratyeka Bouddha, de façon générale, ne donnent pas de conseils, puisque pour eux, c'est une réalisation intime et empirique. S'ils rencontrent quelqu'un qui appartient donc au véhicule des auditeurs, ils vont totalement adopter cette forme d'approche. Et s'ils rencontrent un bodhisattva, ils vont embrasser cette approche. Donc, incertain veut dire que la façon avec laquelle ils vont approcher cette nature d'éveil va grandement dépendre d'une rencontre. Ça va être une rencontre qui va faire la différence. Hein? Donc, coupé du potentiel, incertain, la modalité est incertaine, auditeur, libération personnelle, Pratyeka Bouddha, réalisé par soi-même, donc réalisation empirique et intime, et ensuite, donc, le potentiel, la famille du Mahayana, du grand véhicule, l'idéal du Bodhisattva. La tradition à laquelle nous nous rattachons appartient à la tradition du Mahayana. Mais ce n'est pas parce qu'on fréquente un club Mahayana que l'on a une aspiration Mahayana. Hein? Également, je pense qu'il y a aussi une fluidité dans ces cinq approches. Parce que avant que nous ne faisions la rencontre du Dharma ou d'un enseignant, on ignorait tout de cette nature d'éveil qui était notre trésor inné. Hein? Peut-être on avait, je sais pas comment dire, alors peut-être on le traduisait dans notre culture avec des termes religieux, la présence du divin, l'étincelle divine, un sentiment qu'il y avait quelque chose de plus que ce que l'on voyait. Quoi. Mais il n'y avait pas vraiment une connexion, en particulier une connexion avec la méthodologie qui permettait d'actualiser cette réalité. Et on peut faire la rencontre, et la rencontre va dépendre de la personne, c'est la personne ou le texte qui va faire que, ah voilà la voie que j'ai envie de suivre. Hein? Donc, je pense qu'on peut tout à fait changer au cours de son chemin. On peut commencer avec l'idée de se libérer soi-même rapidement, et puis en cours de chemin, on comprend que finalement, nous sommes tous liés les uns aux autres. Nous avons des aventures depuis des temps sans commencement. Nous avons tous été les pères, les mères, les époux, les frères, les sœurs, les uns des autres. Et que finalement, ça n'a pas vraiment un sens profond que de rechercher un éveil personnel qui ferait abstraction de l'éveil de tout le monde. Donc, on peut évoluer en quelque sorte vers cette attitude du Mahayana qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus altruiste, beaucoup plus ouverte, en quelque sorte. Bon, voilà. Je situe le tableau. À ce moment, sur ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des besoins d'éclairer ou de reprendre un point de détail? Attends, vas-y, prends le micro, il faut que tu parles dans le micro.
Moment, tu avais dit qu'il y avait quelque chose qui se posait sur quelque chose que je n'ai pas compris ce que c'était.
Eh bien, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'était que tu n'as pas compris?
Justement,
Mais dis-le avec tes mots, reprends pas les miens, dis-le avec tes mots. Comment tu as entendu? Dis-moi ce que tu as entendu.
justement, c'est pas compris.
D'accord. Et est-ce que tu peux me définir, me dire, me raconter en quoi t'as pas compris? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je n'ai pas trouvé très clair, j'ai pas compris ce que vous
Et je parlais de quoi en gros? Autour du mot, qu'est-ce qu'il y avait? Les autres mots autour du mot? Tu te rappelles pas des autres mots autour non plus? Ok, bah tu sais quoi? On va laisser tout ça gentiment descendre et puis hop, ça va revenir. D'accord? Et à ce moment-là, tu pourras me demander. Tiens, passe le micro à Fabienne.
J'ai toujours du mal avec le groupe des incertains.
Ouais.
Parce que faire une rencontre et être touché par quelqu'un, il faut déjà avoir posé des causes pour faire cette rencontre. On dit aussi, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc, je peux pas imaginer que c'est par hasard que les incertains, tout d'un coup, ils rencontrent quelqu'un et que ça les transforme, quoi.
Oui, un certain ne veut pas dire par hasard non plus, hein.
D'accord.
Un certain ne veut pas dire par hasard, mais c'est peut-être
Disais, ça dépend d'une rencontre.
alors peut-être trouver un autre mot qu'un certain. En tibétain, c'est mangé. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude quant à la façon dont ils vont approcher ça. Pour peut-être le traduire différemment. Je te donne un exemple. Gendun Rinpoche était suivi par un médecin homéopathe à Paris. Et il avait dans son cabinet une photo de Gendun Rinpoche en noir et blanc, une de ces photos qui ont été faites par Jean Dieuzède il y a très très longtemps. Et une de ses patientes vient et elle est en arrêt devant la photo. Mais c'est qui? C'est ça qui a fait le hasard. La rencontre, ça a été la photo de Gendun Rinpoche. Et bon, là, c'est une anecdote assez savoureuse. Dans les années 76-77, On travaillait à préparer le centre pour l'avenue du Karmapa, 16e du nom, à cette époque. Et il y avait un jeune garçon qui était là et qui participait, un volontaire, un bénévole. Je lui dis, mais comment t'as rencontré? Parce qu'on se posait la question, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Google. Donc, c'était là, comment est-ce que tu es arrivé là? Et il dit, le lama m'a capturé par mon vice. Je dis, comment ça? Tu peux... Alors, il me dit, ben voilà, j'ai acheté un magazine. Un magazine que tu prétends acheter parce qu'il y a des sujets intéressants à l'intérieur, mais en gros pour les jeunes filles dénudées à l'intérieur. Donc il achète ce magazine et en page centrale, bon, page centrale il y avait la pin-up, mais un peu avant, il y avait, qu'est-ce que ça foutait là, j'en ai aucune idée, un article sur Dakpo et des photos de Gendun Rinpoche. Hein, quand on parle d'un certain. Donc, le gars, il ouvre son magazine et puis, voilà, il y a la photo de Gendun Rinpoche. Il y a eu un article, parce qu'ils achetaient des articles de fond. Il y a quelqu'un qui a dû venir à l'époque faire un article de, comme ça, vendre quelques pages pour son magazine. Et c'est ça qui l'a amené à Dakpo. Voilà, c'est ça, l'incertitude. La façon dont on va arriver à ça... n'est pas encore très défini. On peut avoir un altruisme profond qui est pas inné, mais qui est quelque chose qui a été cultivé au travers de longues et nombreuses existences, où on peut être dans une démarche d'aspiration à la libération, de se défaire de ça. Donc, bien sûr, ce sont des graines plantées dans le continuum de notre esprit au cours de nombreuses existences. Parce que sans cela, il n'y a pas l'intérêt. Et alors, pour revenir très, très, très en arrière, le fond, notre inconscient, pour qu'il y ait un appel vers quelque chose qui serait donc une rencontre de l'éveil, quelle que soit la façon dont on va la nommer, hein, il faut qu'il y ait eu ce qu'on appelle des propensions à l'étude. Des graines qui sont des propensions à l'étude, qui soient plantées. Propension, ça veut dire la tendance, l'habitude, hein, à l'éveil. Et quelles sont ces graines? Ce sont des actes généreux. L'image qui est donnée, c'est un cochon qui est poursuivi par un chien, et il a peur, et il s'échappe du chien en faisant le tour d'un stupa. Il tourne tout autour du stupa pour éviter le chien. Et en tournant autour du stupa, il plante des graines de libération parce que le stupa a cette capacité de libération par la vue. Il a pris refuge. Il a pris refuge littéralement. Il s'est caché derrière le stupa. Et ça, c'est une graine qui va faire son chemin et un jour, il va acheter un magazine et il va trouver Gendun Rinpoche. Tu vois, mais les chemins, les voies de Dieu sont impénétrables. C'est vraiment le cas de le dire.
Oui, parce qu'on est d'accord, il y a beaucoup de gens qui ont lu ce même journal et qui n'ont pas eu de révélation.
Ah non, ils ont regardé la photo au centre, oui, ils ont passé les pages au-dessus. Bien sûr, mais c'est pour ça que cette idée des graines propension à l'étude, c'est-à-dire que quelque part, il y a un intérêt, une envie, un désir, une curiosité qui est plantée. On est jusque-là dans les problèmes, etc. Mais il y a un moment, on se dit, mais puis-je trouver un moyen? J'en ai marre d'être là, je veux vraiment sortir, je veux vraiment me défaire de ça. Je veux trouver une voie, je veux trouver un chemin, etc., etc. Donc, cette aspiration conjointe à toute forme d'activité méritoire, mais la première et la plus puissante, c'est la générosité. Quand j'ai des amis qui me disent « Ah, j'ai ma copine, j'aimerais bien l'amener au Dharma parce que ça serait bien pour elle, etc. etc. » Arrête le prêchi-prêcha, numéro un. Elle n'est pas là pour convertir parce que quand tu essayes de convertir quelqu'un, il s'enfuit au galop. Et quel conseil je peux lui donner? Eh bien, le conseil le plus simple, c'est « Vis une vie de générosité. » Juste ça, que ça. une vie de générosité. Parce que c'est le fil d'Ariane. Si on prend le début de la générosité, on va suivre le fil et ça mène à la libération. Ça va prendre un temps infini, mais bon, du temps, c'est tout ce qu'on a. Hein. Donc, la générosité, commencez par ça. Et donc, on plante ces graines potentielles ou propensions à l'étude. Et ce qui fait que, avant tout, on se pose une question. Parce que le problème du monde imaginaire dans lequel on est prisonnier, hein, pour reprendre la terminologie de ces trois natures, le monde imaginaire, le problème du monde imaginaire, c'est qu'on est totalement absorbé par l'imagination. On est prisonnier de cette imagination. Et on vit dans une sorte de rêve, de fantasme, de fantaisie. Et il n'y a jamais un moment où on fait un pas en arrière en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Parce qu'on est le nez dans le guidon, il y a beaucoup de choses à faire, on travaille, etc. Donc, par moment dans la vie, il y a une rupture. Ce qui arrive, par exemple, lorsque vous rêvez, et que dans le rêve, il y a une sorte d'anachronisme, il y a une sorte de déplacé, il y a un sursaut, et vous prenez conscience que vous rêvez. Hein? Dans la vie, cette graine de curiosité en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a autre chose, il n'y a pas que ça. » C'est ça qui commence à mettre en mouvement un processus qui va mener à l'approche des auditeurs, l'approche des pratiques à Bouddha, qui est déjà beaucoup plus avancée, puis l'approche des bodhisattvas. Et donc, ce n'est pas que la rencontre. Hein? Lama Yunten au Bost me racontait l'histoire, ils étaient à Paris avec Karmapa, 17e, à la FNAC. Et donc, il y avait deux rayons, et Karmapa feuilletait des livres, et il avait le dos tourné à une jeune femme qui elle-même feuilletait des livres. Et Yunten voyait les deux, et il a vu qu'il y avait Karmapa, et il y avait Sophie Marceau, l'actrice, dos à dos, à la FNAC, au même moment, intéressés par des livres. Et puis, ils sont partis chacun de leur côté. Elle n'a même pas vu Karmapa. Il y a eu les conditions de la rencontre possibles, puis elle ne s'est pas faite. Il n'y avait pas encore les éléments de la rencontre. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de mettre en place, d'une part, la générosité, parce que ce qui va être la force motrice, les actions vertueuses, positives, de générosité. Et d'autre part, l'envie, la curiosité d'en savoir plus. On nous apprend quand on est petit, la curiosité est un vilain défaut. Ben non. C'est en fait aussi le premier mouvement de la libération. Essayer de comprendre. Mais pourquoi c'est comme ça? Sinon, on reste dans le train-train. Pourquoi on changerait? Parce que c'est très prenant, hein, ce rêve que l'on confectionne et dans lequel on s'enferme. Il faut qu'il y ait ces instants comme ça de réveil, avant l'éveil, le réveil. D'accord? D'autres questions? C'est bon pour vous aussi, hein, dans le cyberespace, hein, si vous avez une question, ouvrez votre micro.
Oui, justement, je voulais savoir, on peut dire aussi que ce groupe là, des incertains, c'est comme une période de latence.
C'est une
période de latence où il y a tout le potentiel, mais il faut juste le déclic, quoi, l'étincelle pour que ça se réveille.
Voilà. Oui, oui. Ouais. Mmh. Oui. C'est presque là.
Oui, c'est presque là, quoi. Oui, c'est le petit plus qui manque pour s'engager. Et est-ce qu'on peut dire que même sur le chemin après, des fois, même si on est déjà sur le chemin, mais après, il y a des vraies rencontres qui se font des fois sur le chemin. Et là aussi, c'est encore un autre oui, déclic.
Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu.
Non, mais je veux dire, des fois sur le chemin, on s'intéresse, mais on n'est pas vraiment engagé. Et tout d'un coup, il y a une rencontre qui fait qu'effectivement, quelque chose prend un pas, une autre envergure. Quoi.
Oui.
C'est aussi simple. On peut être sur le chemin en étant aussi un peu incertain sur la voie que l'on veut vraiment ou la manière de pratiquer.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que je disais, à mon sens, ce ne sont pas cinq, comment dire, cases dans lesquelles on est enfermé. Il y a de la fluidité dans tout ça. Et après, il y a des concours de circonstances, il y a cet intérêt potentiel, on va dire, mais qui est latent, qui est un petit peu, c'est la belle au bois dormant, quoi. Ou le beau au bois dormant, pour parler moderne. Le beau au bois dormant qui a besoin d'être activement réveillé par une jeune femme. Ou un jeune homme, peu importe. Il a besoin d'être réveillé. Hein, les histoires sont un peu genrées chez nous, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait cette rencontre qui fait que voilà, il y a un éveil. Et pour cette personne-là, la patiente du médecin homéopathe de Guénon Rinpoché, c'était la rencontre, c'était la photo. Parce que et la photo. Ce qui est très intéressant, moi j'aime beaucoup la photographie, donc Jean Dieuzède, c'est quelqu'un d'important. Hein, Jean Dieuzède, c'est le Robert Doisneau de Toulouse. Hein, c'est un immense photographe, un photographe de rue, un peu comme Doisneau ou comme. Son nom m'échappe, Cartier-Bresson. D'ailleurs, Cartier-Bresson m'a amené entre autres au bouddhisme. Puisqu'il lui, il disait, c'est en lisant le livre d'Eugène Hérigel, L'archevêque du tir à l'arc, que j'ai compris la non-dualité dans la photographie. Et je me suis dit, la non-dualité dans la photographie, c'est intéressant ça. J'ai lu Eugène Hérigel, l'art de l'archerie dans le zen. Et donc, Dieuzède est venu. Il a été, je pense, invité, enfin, probablement même payé par Bernard Benson, qui était la personne qui a donné tous les terrains, etc., à Karmapa et à Dzogchen Rinpoché. Et il a fait ces séries de photos qui sont extraordinaires. Et ça, avec l'être authentique de Guénon Rinpoché. Il y a cette photo où il a les mains jointes comme ça, et il regarde directement. On ne peut pas rester. Comment dire, insensible, il y a quelque chose qui se passe. Alors après, on peut ignorer ce qui se passe, ou c'est trop dérangeant, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette expérience. Donc c'est, à ce sens, ça rejoint ce que les enseignements nous disent sur comment se manifeste l'éveil physiquement. Hein? La présence physique de l'éveil. Parce que l'éveil, avant tout, c'est l'esprit, le dharmakaya, le mode d'être ultime, pour reprendre une terminologie kagyu, le mahamudra, en tant que fruit, pas en tant que chemin, ou en tant que base. Comment cet éveil se manifeste? Puisque cette réalisation de l'esprit éveillé est inconcevable, indicible, ineffable, elle est pour l'ensemble des êtres, elle est inexistante. Et donc, elle a besoin d'un cheminement. Et donc, l'éveil va se manifester d'une façon, comment dire, verbale, au travers de l'enseignement. Mais la même chose, tout le monde n'est pas sensible à l'enseignement, tout le monde ne peut pas comprendre l'enseignement, ou plutôt, lorsque l'on écoute, on écoute avec nos oreilles, et donc il y a une distorsion du message. On a besoin d'avoir quelqu'un, un lecteur ou une lectrice qui nous accompagne dans l'étude. Et c'est pour ça qu'il y a la manifestation physique du Bouddha. Donc, la manifestation, on va dire, extraordinaire ou première, c'est le Bouddha historique, comme le Bouddha Shakyamuni, qui marque une ère, ouvre une voie, et après, à la suite de ça, pendant, pour nous, à peu près 5000 ans, il y a une influence qui va aider les êtres à s'éveiller. Et puis, il y a aussi, bien sûr, hormis les grands bodhisattvas, etc., il y a aussi la présence physique de l'éveil au travers d'une œuvre artistique. Hein? Par exemple, alors, bon, quand on est dans un contexte bouddhique, on est dans un contexte de sutra, donc bien sûr, on n'est pas dans l'expression artistique telle qu'on l'entend nous, mais une statue de Bouddha, une peinture, une tanka, une représentation, une calligraphie qui peut être une représentation de l'éveil, ou de la parole éveillée, ou du corps éveillé, Et donc là, il y a une lecture qui est à notre portée, parce qu'elle est physique, elle est sensuelle, on peut la toucher, et il y a quelque chose qui se fait. Et donc, la statue de Bouddha, qui est vraiment une présence de l'éveil en modalité physique, va devenir une présence du Bouddha. Et là, je vois la photo de Dieu Z qui saisit en un instant l'être authentique de Gendun Rinpoche, qui est imprimé. Ce docteur le met dans son bureau, dans son cabinet. Et là, c'est la présence du Bouddha au travers d'une photo. C'est la présence du Bouddha au travers d'une photo. Et donc là, il y a quelque chose, il y a la rencontre qui se fait. Je parle à Muriel, donc du coup, je te regarde. Il y a la rencontre qui se fait.
Merci.
D'autres questions?
En fait, sur ce long, 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 long chemin vers l'éveil, il y a des périodes et il y a des moments où on peut être désorienté ou désarçonné. Enfin, moi, je le suis. Je suis complètement, je ne sais plus à quel saint me vouer par moment. J'ai perdu confiance. Je balise, enfin, je trouverai toutes sortes de mots pour exprimer la désorientation que j'expérimente, avec en même temps la conscience qu'en arrière-plan, je n'ai pas perdu la compréhension, mais que actuellement, c'est comme si j'ai plus accès. Voilà, j'ai plus accès à une certaine base de données, j'ai perdu le fil. Bon, il y a des événements dans la vie qui vous secouent, mais il y a aussi des contextes qui ont vraiment comme coupé mes illusions aussi. Donc, dans un certain sens, c'est une bonne chose parce que il y a une évolution possible, probablement plus intéressante à partir de là. Mais actuellement, c'est un petit peu le désert du cœur, enfin, quand on parle compassion et tout ça, je ne sais plus où la trouver, j'ai de la peine à me relier. Alors voilà, ça fait partie du chemin, docteur.
Comment sortir de l'ornière?
Oui.
Tu sais, la psychanalyste Françoise Dolto, elle disait que les adolescents, au moment de l'adolescence, ils sont comme des écrevisses. Tu vois, les écrevisses ont des exosquelettes et quand l'écrevisse grandit, bah, il faut quitter le squelette. Et qui sont extrêmement vulnérables et fragiles avant que ce nouvel exosquelette se soit reconstitué. Et en fait, c'est un passage, une transition où il y a à la fois une grande vulnérabilité, et, comme tu peux le dire, un désarroi ou autre chose, parce que ta vieille coquille, elle sent un peu l'étroit et le renfermé et tu peux plus y rester. Tu es obligé de la laisser. Mais en même temps, c'était quand même ta maison, quoi. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la sécurité et du confort. Et que ça, c'est difficile de faire le deuil. Donc, on est un petit peu entre deux choses. On ne peut plus rester, mais partir est inquiétant. Hein? Et surtout, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Parce que je ne sais pas si l'écrevisse, il sait, au sortir du premier exosquelette, qu'il y en a un autre qui va venir. Pour parler d'incertitude. Hein. Donc, bon, on se connaît, hein, depuis un bout de temps. Hein. Donc, si tu veux, ma réponse, elle est aussi influencée par déjà les discussions qu'on a eues auparavant. Je crois que c'est important d'embrasser cette vulnérabilité, de faire le deuil de ce qui a été, de faire le bilan sans amertume. Et au contraire, avec discernement et d'apprendre ça. Parce que lorsqu'on est dans une situation difficile, la réaction naturelle, c'est d'attribuer le problème à d'autres. Si on est un peu extraverti. Si on est introverti, on va se faire un problème intérieur. Hein? Mais souvent, on va se dire, oui, mais bon, il y a eu ça, j'ai tout donné, je me suis engagé, mais ça, il n'y a pas eu de réponse, ou j'ai été, bref, mille scénarios qui peuvent arriver à l'esprit. Et du coup, on perd ce moment précieux qui est le moment de l'observation de ce qui se passe en nous. Et ça, je rencontre ça tous les jours, pratiquement dans toutes les discussions que j'ai avec des gens qui ont pratiqué depuis des années, et qu'il y a un sentiment d'incertitude, de doute et de culpabilité mélangés. La culpabilité, c'est que le squelette qui m'avait été donné et que j'ai utilisé avec un certain profit, ne me convient pas et ne me convient plus, ne me nourrit plus. Il est pesant et il est étroit. Et je ne peux pas faire autre chose, je dois le quitter. Je dois le quitter. Ou alors, je refuse de voir la nécessité de l'évolution et je reste, je m'enquiste, hein, je me bonsaille dans cette vieille carapace et je reste là et je me dessèche. Avoir le courage de regarder ce qui arrive, avoir le courage de sortir, c'est pas simple, parce qu'effectivement, on perd les repères, puisque les repères, c'était l'ancien squelette. Mm-hmm. Et donc, on n'a pas encore trouvé ce qui va être notre nouvelle colonne vertébrale, hein, ou notre nouveau exosquelette. Et donc, on est dans le désarroi, dans l'incertitude, un peu de dépit et de colère. Qu'est-ce qui fait que ils m'ont poussé dehors? J'étais bien là, je dormais tranquillement. Pourquoi ils m'ont réveillé? Hein? Et ça, c'est ce qu'on traverse à l'adolescence. Et en même temps, c'est ce qu'on va retrouver, on va dire, un petit peu plus loin, lorsqu'on arrive à la fameuse crise de la midlife, qui n'est pas vraiment midlife, mais bon... ménopause, andropause, les hormones qui nous ont bien agités à l'adolescence, hein, nous agitent à nouveau autrement. Et c'est un moment de faire un petit peu le bilan, la prise de conscience de ce qui s'est passé. Et pour revenir, là je parlais d'Olto avec ses écrevisses, mais pour parler de Jung deux minutes, si tu veux, il explique qu'il y a l'âge de la conformisation et l'âge de l'individuation. L'âge de la conformisation, c'est on veut s'insérer, on veut être accueilli, on veut être intégré, donc on veut faire plaisir aux parents, on veut faire plaisir à la sangha, on veut faire plaisir au lama, et on fait plein de choses. Mais pour faire ça, on est obligé de mettre tout ce qui était de notre individualité sur ce que Jung appelle les étagères obscures. Et donc, on les oublie. Et puis arrive un moment où effectivement la conformisation nous étouffe. On est à nouveau dans un problème de squelette. Et c'est là, on se dit bon bah les gosses ils sont grands, le mari je sais plus qui c'est parce que c'était pas le même bonhomme ou la même femme que j'avais rencontré quand j'avais 18 ans. On a 50 ans, on s'est perdu. Hein, on s'appelle papa maman. On s'était pas marié comme ça quoi. Bref, c'est une autre histoire. Et on se dit mais qu'est-ce que je fous là quoi. Et c'est là où monsieur s'achète une décapotable et Marie échange sa femme de 50 ans contre deux de 25, où il essaye de faire autre chose. Souvent maintenant la nouvelle génération féminine a plus de liberté, de courage et puis d'indépendance financière pour le faire, mais avant la femme restait et elle se desséchait. J'avais un problème je pars dans toutes les directions, mais il y a un fil, hein, faut le suivre le fil. J'avais un problème de vésicule biliaire. Et mon médecin me dit, c'est ce que dans l'ancien temps, on appelait la maladie des femmes. C'est parce que c'est tout ce que tu gardes à l'intérieur. ça part dans la vésicule biliaire. Elle me dit, exprime-toi. Je dis, mais je ne peux pas le faire. Je suis tenu par un cadre d'attitude, etc. Je suis un moine, tout est mesuré, tout est bien, etc. Elle m'a dit, va dans les bois et engueule un arbre ou crie sur un arbre. Je dis, mais même un arbre, je ne peux pas lui faire ça. Hein? Et donc, la maladie des femmes, c'est la maladie de garder ça à l'intérieur. Et maintenant, on voit des gens qui plaquent tout, qui disent, on s'en va. Salut, je vais faire autre chose. Hein? Parce qu'on arrive dans cet âge de l'individuation, qui n'est pas l'individualisation. Ce n'est pas un trip égoïste. C'est le fait qu'on a besoin d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous et d'embrasser, parce que la vie est courte, d'embrasser cette transformation et d'accepter de sortir de l'exosquelette, d'accepter la fragilité, la difficulté et puis aussi la critique. Parce que quand on est attaché ou lié dans un système familial, social, etc., la liberté n'est pas gratuite. Il va y avoir des contre-coups parce que c'est un petit peu lorsqu'on dort ensemble. Hein, lorsqu'on dort ensemble, c'est très bien, hein, on fait la cuillère, c'est très bien, mais dès qu'il y en a un qui bouge, il faut que l'autre il bouge aussi, et il se réveille et il n'aime pas généralement. Hein. Donc on finit à avoir deux lits séparés ou deux chambres. Hein. Donc, il y a des contre-coups à ça, mais c'est nécessaire. Il faut embrasser cette individuation. Et dans le dharma, c'est difficile parce que, comme on nous dit, ah oui, mais tout ça, c'est l'ego, la saisie de l'ego, on pense qu'à soi, etc. Et nous, dans notre culture judéo-chrétienne, qui est complètement imprégnée de cette culpabilité et du désir de bien faire, de surtout pas rater, eh bien, on mélange tout ça, on fait une tambouille incroyable et le dharma, il prend, malheureusement, le dharma, c'est un peu comme le tofu, il prend le goût de la marinade dans lequel il trempe. Donc, il prend ce truc-là et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors que c'est une époque fantastique de reconnaissance de notre évolution, embrasser notre fragilité et en même temps se dire, maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Et comment on se pose cette question? En se disant, qu'est-ce qui a été l'essentiel de tout ce que j'ai appris au cours des années précédentes? En termes de bouddhisme, c'est très simple, c'est l'esprit d'éveil. Quand tout s'effondre, il ne reste que l'esprit d'éveil. C'est le refuge dans le Bouddha, dans la confiance que nous sommes toutes, tous dotés de la nature d'éveil. Refuge dans le dharma qui est cultivons la bienveillance et le discernement intelligent au service de la libération. On va dire premièrement de prendre soin de l'autre et ensuite progressivement les aider, nous aider à atteindre l'éveil. Et voilà, enfin, moi quand j'ai traversé ce moment, c'est la seule chose qui me restait, c'est ça. Et maintenant, ce qui me reste, la seule chose qui me reste, c'est ça. Tous mes maîtres sont partis, ils sont tous morts. D'accord ? Je ne vais pas aller au supermarché pour en acheter un autre. Il faut grandir à un moment. Hein ? Ils sont en moi. Quelqu'un m'a dit une fois, ah, tu dois être content d'avoir retrouvé ton maître en parlant de Gendin Rinchen. Je dis, mais moi, je ne l'ai jamais perdu. Je ne le retrouve pas, puisque je ne l'ai pas perdu. Parce qu'il s'était intégré. Mon esprit l'a reconnu comme étant lui-même. Hein, le grand maître Maitripa, qui est un des grands maîtres de la tradition du Mahamudra, disait, j'ai compris, j'ai découvert que la nature de l'esprit, c'était l'union de la vacuité et de la compassion. Et ceci est le maître. Donc je ne demande plus rien à personne. Puisque, ayant intériorisé le maître par son chemin de pratique, il n'avait plus besoin de dépendre d'éléments extérieurs. Bon, ça c'est Maitripa, au bout du chemin, d'accord. C'est pas pour demain ni après-demain, mais on va vers ça. Mais pas tout de suite. Hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'appuyer sur le dharma. Le dharma, la définition du dharma, c'est qu'il est Il est bien au début, bien au milieu, bien à la fin. Il est clairement expliqué, clairement phrasé, clairement construit. Et il ne trompe pas, il n'induit pas en erreur, parce qu'il n'a pas d'intérêt personnel. Donc, voilà, ce qui nous reste, c'est le dharma, ce qui nous reste, c'est l'esprit d'éveil, et tout ce que l'on a vu comme essentiel au cours de notre formation. Après, les aléas des rencontres, les enseignants qui sont fascinants, puis déroutants, puis décevants, tout ça, c'est la nature humaine. Hein? On arrive à un moment où on se dit, ben, tout le monde fait de son mieux. Donc, on n'est pas dans, je parlais de la positivité toxique, on n'est pas dans la positivité toxique, qui est de dire, comme on pouvait l'avoir au début, tous les moines, tous les maîtres, etc., sont tous des Bouddhas, tout est parfait. On était un peu comme des enfants devant la vitrine de Noël au Galerie Lafayette. Ah, oh, c'est merveilleux, etc., etc. Et puis, on voit, bah, ouais, bah, lui ou elle, on voit l'humanité. Et on accepte leur humanité, bon sang, c'est des humains. Pourquoi on veut les forcer à être l'image d'Épinal, l'image idéale que l'on projette? Ça, c'est notre problème. C'est notre imaginaire toxique qu'on projette sur des êtres qui sont en formation, en développement, et qui nous aident à un certain degré, à un certain niveau. Hein, c'est, quelque part, la sangha aussi, il faut leur foutre la paix un peu. Hein, ils ne sont pas là pour recevoir nos fantasmes de perfection. On prend et on laisse. Il y a un proverbe dans le Zen que j'aime beaucoup qui dit « mange tout le poisson ». Ça, c'est les tantras qui disent « mange tout le poisson ». Zen dit « mange tout le poisson » et ensuite « rejette les arêtes hein ». Donc, on reçoit en vrac et puis après, on fait le tri. Notre intelligence, notre participation sont requises. Et à un moment donné, effectivement, les enseignants authentiques, on les compte sur les doigts d'une main. Je ne vais pas donner de nom, parce que si je donne de nom, ça veut dire que tout le restant est... Mais à vous de voir, est-ce qu'il y a là les qualités fondamentales de l'enseignant? C'est un, bien connaître son sujet et en avoir une expérience intime. Ça peut être l'éveil, mais on peut aussi en avoir une bonne expérience intime. Est-ce qu'il y a bienveillance? Est-ce qu'il y a une liberté de toute recherche égocentrée dans la relation avec l'étudiant? Donc, si on voit quelqu'un qui a une bonne connaissance du dharma et qui en a une expérience, et on sent qu'il n'y a pas d'idée derrière la tête, de gagner quelque chose dans la relation, on peut dire que là, on a quelqu'un qui est un interlocuteur valable. Et on va continuer son chemin. Mais on aura grandi dans quelque chose de différent de ce qui était avant. Donc, ne perds pas courage. Au pire, tu ne perds jamais ta nature d'éveil. Donc, tu peux déjà te dire... Voilà, au pire, j'ai ça. Et d'être généreuse de toutes les façons possibles et puis de cultiver, de faire des souhaits pour maintenir vivant la curiosité, le désir d'avancer, de comprendre davantage, d'explorer, le désir de l'exploration. Et puis en acceptant la réalité fondamentale de l'impermanence, c'est-à-dire que tout change. L'évolution, on change. Heureusement qu'on change. Si rien ne changeait, pourquoi est-ce qu'on suivrait un chemin qui mène à l'éveil? Enfin, c'est incompatible. Si tout est déjà figé, le chemin est impossible. Donc, le chemin est possible parce que tout est en constant mouvement. Donc, ne soyons pas désarçonnés lorsque les choses changent. Il faut vraiment intégrer et... faire sien la réalité du transitoire, du changement, etc., qui parfois est effrayant parce qu'on a une attitude conservatrice, donc on n'aime pas quand ça change. Mais moi, je le vois souvent comme quelque chose qui est libérateur. C'est-à-dire, tu passes dans une phase difficile, tu te dis, mais heureusement, tout est impermanent. Ça aussi, ça va changer. Et tu ne t'enlises pas dans ce truc.
Et donc, je dois aussi vraiment prendre en compte le fait que tout maître est dépendant à la fois du nirvana et du samsara.
Jusqu'à ce qu'il soit un être pleinement éveillé, bien sûr, il y aura toujours des petites traces de samsara. Mais elles vont être de plus en plus, comment dire, légères et de moins en moins névrotiques. Parce que si quelqu'un quand même a un fond névrotique et qui utilise le dharma comme fond de commerce, c'est vaut mieux aller voir ailleurs. Hein? Et il faut bien regarder les choses en face, il ne faut pas avoir peur de regarder les choses en face et de se raconter des histoires. L'histoire qu'on entend tout le temps dans les centres du dharma, moi qui me fatigue beaucoup, c'est « Ah oui, mais il fait ça, je ne peux pas comprendre, mais c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre. » Mais réveillez-vous, quoi. Il dit peut-être ça parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Donc, engagez le dialogue. On se met toujours, à nouveau, hein, la marinade judéo-chrétienne de notre culture, c'est notre faute et c'est de notre côté. Ben, si on ne comprend pas, posez une question. Hein, c'est être comme l'enfant qui dit « mais le roi est nu ». Hein, alors que tout le monde qui a un intérêt à être bien placé auprès du roi dit « ah, votre majesté, mais que merveilleux atout vous portez, etc. etc. » À nouveau, l'imaginaire aliénant. On s'écrit, on se raconte une histoire et on y croit. Et on ne veut pas s'éveiller de ce rêve parce que ce rêve, il est lié à nos espoirs. Et donc, nos espoirs, si on les perd, on a nos craintes. Oui. Mais on ne voit pas que nos espoirs créent nos craintes et que nos craintes créent nos espoirs. Et donc, se libérant de l'un, on se libère de l'autre. Alors, par contre, l'espace est ouvert et tout est possible. Mais ça, c'est inquiétant.
Ok.
Voilà, donc dans ces moments, prends soin de toi, comment on dit, pamper yourself, c'est pas pomponner, parce que pomponner c'est ce mec, choyer, voilà, choie-toi, sois-toi, choie-toi, et puis, appuie-toi fermement sur ce qui est une certitude qui est née de ta rencontre avec le dharma, le sens du refuge, l'esprit d'éveil. Tu peux pas te tromper. Et si tu as besoin d'un maître vers qui te tourner, prends le Bouddha. Shama Rinpoche disait, en cas de doute, prenez le Bouddha comme la maracine. Il n'y a pas de danger. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire prendre le Bouddha comme lama racine? Lama racine, qu'est-ce que ça veut dire? Lama, c'est la bienveillance éclairée. Hein? Si on veut faire une traduction littérale du terme lama, la bienveillance éclairée. Et racine, ça veut dire source. Source, c'est ce qui fait que toutes les bénédictions, les grâces qui sont la rencontre avec notre esprit viennent de ce gourou, de ce lama. Et donc le Bouddha Shakyamuni est pour moi une source d'émerveillement. Je ne l'ai pas rencontré, hein. Je suis vieux, mais quand même pas si vieux que ça. Je n'ai pas rencontré le Bouddha Shakyamuni, mais moi je suis une personne de communication et je suis émerveillé par sa qualité de communication. Voilà un homme qui s'est assis et qui a compris la réalité et qui a compris que cette réalité, elle était ineffable et inconcevable. Va transmettre ça. Tu ne peux pas utiliser des mots, c'est des concepts. puisque c'est ineffable, tu ne peux pas utiliser des mots. Comment est-ce qu'il va faire ça? Et il a trouvé un moyen en 40 années, ou à peu près, quelque chose comme ça, 45 ans, il a trouvé un moyen de créer un environnement où les gens se sont éveillés par un environnement qu'il a créé, d'une part, c'est ce qu'on appelle l'enseignement provisoire, et il a créé un environnement, d'éthique, etc., etc. Et puis, il a donné quelques indications symboliques, ce qu'on appelle le sens direct, l'enseignement direct. Le Mahamudra appartient à ce type d'enseignement, un sens direct, mais qui était métaphore, qui était, puisque l'ultime étant inconcevable et ineffable, on ne peut pas le décrire. S'il est décrit, il devient provisionnel, il devient provisoire. Et il a donné des indications malgré tout. Et ça, c'est pour moi époustouflant. Et que 25 siècles après, il a mis en place une structure qui fait que ça continue et que ça reste frais. Le jus est toujours dedans. Ça ne s'est pas desséché, ce n'est pas devenu des hiéroglyphes dans les pyramides. C'est resté vivant. Et donc aussi, comment dire, ça a pu s'adapter aux différentes cultures qu'il a traversées, qui l'ont reçu. Ça, pour moi, c'est ça que je vois le plus comme, pour moi, une source d'admiration. Dévotion, admiration. Et j'apprends beaucoup en lisant les sutras, etc. Et j'apprends à former ma communication sur cette base-là. Donc, le Bouddha est mon lama racine.
Merci.
Après, il a pris de nombreux visages dans mon existence. Il y a une blague que j'aime beaucoup qui dit « Un jour, Dieu t'appellera et il aura la voix de ta mère. » On ne peut pas savoir. Et donc, ce Bouddha, il se manifeste de façon inattendue. D'accord ?
Merci beaucoup.
Pas de panique, continue. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu as retrouvé ton mot que tu ne comprenais pas? Non, encore? Bon, c'est pas grave. Donc, si ce n'est pas important, alors. C'est pas important, t'as raison. Le professeur Sempa Dorje, qui vient de décéder, qui est un grand enseignant, un des grands maîtres du Karmapa, une fois posé une question à ses disciples, et puis il y avait un silence. Alors, il disait, est-ce que c'est le silence de « vous avez tout compris » ou est-ce que c'est le silence de « vous n'avez rien compris » Bien, bah, sur cette bonne note, on va peut-être conclure pour ce soir, en guise d'introduction. Hein, et puis on va aller vers le cœur du sujet demain, à 9h30. Donc 9h30, même chaîne pour vous dans le cyberespace. Donc je vous propose de conclure en partageant les bienfaits de cette discussion, quel qu'il soit, avec l'ensemble des êtres. Par cette vertu, le grand saut promptement réalisé, tous les êtres sans exception, en cet état, puissions-nous les établir. Par ces bienfaits, puisse l'omniscience être obtenue, et les ennemis funestes vaincus, des flots troublants de naissance, vieillesse, maladie et mort, de l'océan des possibles, ce qui erre, puissions-nous délivrer. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci. Au revoir, mes amis. de l'autre côté du miroir. Au plaisir de vous retrouver bientôt.
Bonne nuit.
Merci.
Super, super installation. Bravo. Je prends des notes parce que je vais ramener ça à la maison. Chez nous, c'est vraiment primitif. Alors oui, demain, 7 heures, méditation. 7 heures à 8 heures. Si vous pouvez avoir le texte comme vous faites quand il y a une retraite du Mahamudra. Donc, on commence par le refuge, etc. Et puis, on conclut avec la prière de soi du Mahamudra. Donc, si vous pouvez en mettre un exemplaire ici, ce serait fantastique. Voilà. Oups.